Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Aujourd'hui, l'Église célèbre une grande fête, celle de l'Immaculée Conception. Une évidence à Lourdes, mais un peu moins dès que l'on s'éloigne de cette ville sanctuaire. Qu'est-ce que l'Immaculée Conception ? Pourquoi appeler la Vierge Marie sous ce vocable ? La Vierge est-elle un personnage du passé ? Peut-on encore la rencontrer ? Avoir une relation personnelle avec elle ? Autant de questions auxquelles va tenter de répondre mon invité de ce matin, chapelain de Lourdes, venu spécialement à Toulouse à l'occasion de ce 8 décembre. Père Régis Marie de la Tessonnière, bonjour.
Bonjour.
Donc vous êtes donc chapelain du sanctuaire de Lourdes et puis vous nous faites l'amitié donc de venir à Toulouse ce matin pour nous parler de l'Immaculée Conception, puisque le titre de cette émission est La Grâce de l'Immaculée.
C'est cela.
Vaste programme. Alors, peut-être pouvez-vous nous dire, pour commencer, le 8 décembre à Lourdes, c'est évidemment la grande fête de Lourdes par excellence.
Ça devrait être la grande fête. De fait, la grande fête est celle du 15 août. Pourquoi ? Parce que c'est les vacances, c'est l'été, les pèlerins sont beaucoup plus nombreux. Et de fait, il y a un lien entre la fête du 15 août, qui est la fête de l'Assomption de la Vierge Marie, Marie qui est emportée au ciel en son corps et en son âme, et celle de l'Immaculée Conception, qui est la fête de la conception immaculée de la Vierge.
Alors justement, venons-y tout de suite. Immaculée Conception, mettez-vous à la place de nos auditeurs qui... pour qui Marie, peut-être, en tout cas, peuvent avoir une connaissance culturelle de la Vierge Marie. L'Immaculée Conception, pour le coup, c'est peut-être rapidement du chinois. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de l'Immaculée Conception ? Si vous deviez faire l'Immaculée Conception pour les nuls, qu'est-ce que ça donnerait ?
Alors, d'abord, l'Immaculée Conception, c'est un dogme, c'est-à-dire une vérité de foi définie par l'Église, le 8 décembre précisément 1854. Au terme d'une longue histoire, les dogmes, c'est-à-dire ces vérités de foi que l'Église définit, eh bien, les premiers dogmes ont été définis dès les premiers siècles. Et voici que ce dogme de l'Immaculée Conception peut paraître un petit peu tardif, donc 1854. Pourquoi ? Parce que il y a une croissance dans l'intelligence de la foi, c'est-à-dire que l'Église a reçu le dépôt de la foi. Qu'est-ce que la foi ? La foi, c'est notre relation à Dieu. C'est un don de Dieu pour pouvoir laisser Dieu nous rejoindre et nous-mêmes nous tourner, entrer en communication avec Dieu. Et cette foi a un contenu. Le contenu de la foi, nous l'avons dans le credo, nous l'avons dans le symbole des apôtres, dans le symbole de Nicée-Constantinople. Et nous sommes capables donc de confesser, de professer la foi de l'Église. Mais cette foi de l'Église, elle est beaucoup plus vaste que le texte du credo. Et ainsi, il y a toujours eu une très grande dévotion de la part des chrétiens, de l'Église, pour la Vierge Immaculée, pour la Vierge Marie et pour l'Immaculée Conception de la Vierge Marie. Mais ce dogme, donc, a été défini assez tardivement, le 8 décembre 1854.
Comment on peut expliquer le fait que c'est comme si l'Église, en fait, découvrait, au fur et à mesure de son histoire, des nouvelles vérités de foi?
Alors,
en fait,
elle ne découvre pas, parce que cette vérité, elle en est consciente depuis le début, mais elle en découvre la place de plus en plus centrale, au point que à un certain moment, donc le 8 décembre 1854, il est apparu au pape Pie IX que cela devait être un dogme, c'est-à-dire une vérité de foi définie par l'Église, une vérité de foi qui engage les croyants. Ce n'est pas quelque chose de facultatif, c'est quelque chose qui fait partie intégrante de la foi chrétienne.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire « Immaculée Conception » ?
Alors, je peux vous lire la phrase de la définition de ce dogme. Nous déclarons, c'est donc le pape Pie IX, nous déclarons, prononçons et définissons que la doctrine qui tient que la bienheureuse Vierge Marie a été, au premier instant de sa conception, par une grâce et une faveur singulière du Dieu Tout-Puissant, en vue des mérites de Jésus-Christ, sauveur du genre humain, préservé intact de toute souillure du péché originel, est une doctrine révélée de Dieu et qu'ainsi elle doit être crue fermement et constamment par tous les fidèles. Alors Marie a été conçue immaculée, et Marie est donc immaculée, contrairement à nous tous. À la suite de ce que l'on appelle le péché originel, eh bien, ce péché originel s'est transmis et tout être humain naît marqué par ce péché.
Alors, si vous deviez juste réexpliquer très rapidement le péché originel.
Alors, le péché originel, c'est très simple. Dieu qui est amour a créé l'homme et la femme par amour et pour l'amour. Mais justement, puisque Dieu est amour, Dieu a créé l'homme et la femme libres. C'est-à-dire, ça on peut le comprendre à partir de notre expérience, personne ne peut braquer une arme, par exemple, sur une autre personne en lui disant « j'exige que tu m'aimes ». Ça ne marche pas comme ça. Et ainsi, Dieu qui est amour nous propose, il nous crée, ensuite il nous dit « à vous de choisir, est-ce que vous êtes d'accord pour me faire confiance, pour avoir foi à ma parole ou non ?» Et pour nos premiers, ceux que l'on appelle nos premiers parents, Adam et Ève, eh bien à un certain moment, ils ont eu l'épreuve de la tentation et ils ont fait le mauvais choix. Au lieu d'avoir foi en la parole de Dieu, ils ont écouté, ils ont donné du crédit, accordé du crédit à la parole du tentateur. Ils se sont donc séparés, coupés de Dieu. Et cette séparation d'avec Dieu est dramatique puisque la conséquence, c'est ce que l'on appelle le péché, la conséquence de ce premier péché a été la souffrance et la mort. Mais voici que on pourrait s'étonner en disant pourquoi le bon Dieu a-t-il permis ceci? Tout simplement puisque pour nous, eh bien, nous n'avons plus l'épreuve de la liberté ne se manifeste pas de la même façon pour nous. Dieu a envoyé son Fils qui s'est fait homme parmi les hommes, en tout semblable aux hommes à l'exception du péché. Ce Fils Jésus-Christ qui est né de la Vierge Marie, qui est né de la Vierge Immaculée, et nous-mêmes. Nous avons simplement à nous prononcer par rapport à lui. Si je me prononce pour Jésus, eh bien, ma vie sur terre ne sera pas une fin en soi, elle sera simplement le début d'une vie qui se prolongera pour l'éternité. Et le but de tout être humain que Dieu a créé, en tout cas pour ceux qui l'acceptent, c'est d'être au terme inclus dans l'éternel échange d'amour du Père et du Fils dans la communion de leur esprit.
Donc si j'ai bien compris, donc la Vierge Marie, elle n'est pas marquée par cette espèce de blessure originelle.
Elle n'est pas marquée, mais on va le comprendre très facilement. Elle est immaculée. Immaculée, ça veut dire toute pure, sans tache, sans péché. Et ça, pas simplement en son corps, en son cœur, en son âme, en son esprit. Ça veut dire qu'en elle, il n'y a aucun obstacle à Dieu, aucun obstacle à l'amour de Dieu, aucun obstacle à Dieu qui est amour. Ainsi peut-elle accueillir la parole de Dieu, ainsi peut-elle devenir la mère de Dieu, en donnant le jour à son Créateur.
Donc ce dogme de l'Immaculée Conception, vous dites, c'est 1854.
1854.
Or il se trouve que d'une certaine manière, ce dogme a été comme confirmé, en tout cas c'est ce que pour les croyants, par le ciel, à l'occasion des apparitions. Du lieu dont vous venez, qui est Lourdes. Est-ce que vous pouvez nous rappeler cette histoire?
Alors, ça a été dit par l'évêque, Mgr Laurence, quand lui-même a reconnu les apparitions de Lourdes qui ont eu lieu 4 ans après, donc en 1858,
l'évêque
de l'époque, Mgr Bertrand Sévère Laurence, il les a reconnues, ces apparitions de 1858, 4 ans plus tard, donc en 1862, le 18 janvier. Et il a employé ce terme-là, voilà, que la Vierge avait elle-même confirmé, bon, le dogme. Sainte Bernadette a employé les mêmes propos, mais je dirais qu'il faut s'entendre sur ce terme confirmé. Pourquoi ? Parce que un dogme se suffit à lui-même, il n'a pas besoin d'être confirmé. C'est ainsi, dans l'Évangile, Jésus dit à ses apôtres, ce que vous aurez lié sur la terre demeurera lié dans le ciel, ce que vous aurez délié sera délié sur la terre, sera délié dans le ciel. Voilà. Et ainsi, un dogme qui est défini, eh bien, il est défini. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de constater que Marie, la Vierge Immaculée, elle sait qu'elle est l'Immaculée Conception, elle le sait bien. Hein? Alors, mais elle n'a jamais, dans l'histoire de l'humanité, elle n'a jamais dit « je suis l'Immaculée Conception ». Elle a attendu que le dogme soit défini par l'Église. Et effectivement, quand elle se présente à Lourdes, Bernadette lui demande son nom, le 25 mars 1858, une fois, deux fois, trois fois, à la quatrième fois, eh bien, elle va dire « je suis l'Immaculée Conception ». Alors c'est un moment extrêmement important. Pourquoi ?
Elle s'était pas présentée autrement avant.
Non.
Elle n'avait pas dit « je suis la Vierge Marie ».
Non. Elle a toujours souri quand la petite Bernadette lui demandait son nom. Alors si simplement sur ces quelques mots « je suis l'Immaculée Conception », quatre mots, eh bien, c'est quand même étonnant parce qu'elle parle à la manière de Dieu. Qui dit « je suis » dans la Bible, c'est Dieu lui-même. Hein, quand Dieu apparaît à Moïse dans ce fameux buisson au désert, on a ça au début du livre de l'Exode, au chapitre 3, verset 14. Bon. Et Jésus, pour faire comprendre qu'il est le Fils de Dieu, il dit « je suis » à deux reprises dans l'Évangile. Et ensuite, pour faire comprendre ce que ça veut dire, il dit bien « je suis la vie, je suis la résurrection ». Voilà. Donc la vie, la résurrection, ce n'est pas quelque chose, c'est une personne. C'est celui qui peut dire « je suis la vie, je suis la résurrection, Jésus-Christ ». Eh bien, de même pour l'Immaculée Conception, quand Marie dit « je suis l'Immaculée Conception », ce n'est pas seulement un dogme, c'est une personne, et la seule personne qui puisse dire cela. Alors, on peut ajouter autre chose, c'est que...
Est-ce qu'on peut ajouter que Bernadette, en fait, ne connaissait pas l'existence du dogme de l'Immaculée Conception, et qu'elle le répétait en boucle?
C'est ça.
Pour ne pas oublier.
Alors, ça, c'est vrai.
Raconter cet épisode, peut-être c'est quand ça. Elle l'a dit, et on s'est dit, mais elle ne pouvait pas le savoir.
Avant qu'elle le répète, ce qui est très intéressant, c'est que Marie va dire « je suis l'Immaculée Conception » dans un geste. Alors ce geste va consister, elle était souriante quand Bernadette lui pose la question, et à un certain moment, elle avait les mains jouettes, à un certain moment, elle va, je vais l'expliquer en quelques secondes, mais tout ça se passe en une fraction de seconde, elle va lever les yeux au ciel, elle va étendre les mains vers la terre, elle va trembler, et pendant ce temps-là, elle a dit « je suis l'Immaculée Conception ». Alors, lever les yeux vers le ciel, c'est se tourner vers le Père, étendre les mains vers la terre, c'est représenter, signifier le Fils crucifié, et le tremblement, eh bien, c'est le souffle de l'Esprit. Donc, en disant « je suis l'Immaculée Conception », elle se présente comme entièrement relative à Dieu. Vous voyez, et ça nous permet de comprendre un petit peu ce qu'est l'Immaculée Conception. Marie se reçoit entièrement de Dieu et Marie se donne entièrement à Dieu. Elle est au niveau, en tant que créature humaine, elle est exactement ce qu'est le Fils par rapport au Père. Jésus est engendré de toute éternité par le Père et de toute éternité, il s'offre au Père. Eh bien, en ce qui concerne la Vierge Marie, l'Immaculée Conception, elle, en tant que créature, voilà, elle a été créée à un moment de l'histoire, elle a été conçue par ses parents, mais dans cette conception, elle est immaculée. Eh bien, à partir de ce moment-là, elle se reçoit entièrement de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, et elle s'offre entièrement à Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit.
Alors, donc aujourd'hui, c'est la fête de l'Immaculée Conception, c'est aussi donc la fête de la Vierge Marie. Vous avez commencé à nous parler de cette femme si particulière pour les chrétiens dans l'histoire. Si vous deviez, toujours dans l'idée d'essayer de parler le plus possible au grand public, nous représenter qui est Marie, celle qu'on appelle la Vierge Marie, et Dieu sait s'il y a une infinité de vocables chez les chrétiens,
oui.
Repartir de zéro, qu'est-ce que vous diriez? Qui fête-t-on réellement aujourd'hui, en fait?
Alors, je poursuis simplement sur cette solennité, c'est-à-dire une grande fête de l'Immaculée Conception. L'Église a défini que dans le dôme que Marie était préservée de tout péché, donc elle est conçue immaculée. Mais d'une certaine façon, tout en disant la même chose, la Vierge Marie, disant à Bernadette « je suis l'Immaculée Conception », va beaucoup plus loin. Parce que si Marie est immaculée, elle est immaculée en raison des mérites de la croix du Christ. Elle est la première rachetée, et elle est la première sauvée, elle est la première et tellement sauvée que le péché ne l'a pas atteinte. Voilà. Pourquoi ? Pour, en raison de sa mission, qui est énorme, c'est sa maternité. Marie est mère de Dieu, mère de l'Église, mère des hommes.
Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire, mère de Dieu?
Alors, mère de Dieu,
c'est... Dieu n'a pas de mère.
Dieu n'a pas de mère, mais le Fils de Dieu s'est fait homme. Parmi les hommes, Jésus-Christ, né d'une femme, la Vierge Immaculée. Mais puisqu'il est en même temps vrai Dieu et vrai homme, qu'il est de nature en une seule personne, eh bien, Marie étant la mère de l'homme, elle est en même temps de l'homme-Dieu, elle est mère de Dieu. Ça a été défini par un concile, c'est un dogme, voilà, de foi. Alors, à partir de là, on comprend que Marie est la fécondité de Marie et la fécondité de Dieu sur la terre. La fécondité de Dieu à travers une seule créature qui a accepté, qui a dit oui au projet d'amour de Dieu pour elle et pour toute l'humanité, qui a accepté, et en même temps, elle nous montre donc quel est ce projet d'amour de Dieu pour toute l'humanité. Voilà, donc, pour nous, il y a une explication qui est très que l'on peut vérifier. Marie dit « Je suis l'Immaculée Conception » et puisque rien ne fait obstacle en elle à Dieu qui est amour, elle est toute fécondité. Pour nous-mêmes, eh bien, ce qui nous empêche dans la relation, ce qui nous empêche que cette relation soit féconde, c'est toujours ce qui est de l'ordre du péché. C'est-à-dire, c'est tout ce qui, en moi, va être des zones d'ombre. Au contraire, eh bien, à certains moments, ces zones d'ombre s'estompent ou disparaissent, et à ce moment-là, je m'ouvre, à la manière de la Vierge Marie, je m'ouvre à la fécondité. À la fécondité dans la relation, à la fécondité à travers la parole de l'autre, voilà, cette parole qui va prendre de l'importance pour moi, que je vais être capable d'accueillir, et à laquelle cette parole, je vais lui permettre de porter son fruit, vous voyez ?
On va faire une première pause musicale, Père Régis-Marie de la Tessenière. J'ai oublié de citer le titre d'un de vos livres, en tout cas le titre d'un ouvrage paru donc aux éditions Le Livre Ouvert, intitulé « La lumière de Lourdes dans le monde entier », préfacé par Mgr Nicolas Brouvet, donc évêque de Tarbes et Lourdes. On en parlera un peu plus tard dans cette émission.
Nous te saluons,
Ce matin donc, en ce 8 décembre, fête de l'Immaculée Conception, et avant donc une messe solennelle qui sera donc retransmise en direct sur nos ondes depuis les sanctuaires de Lourdes, en présence, vous me disiez, du cardinal Müller,
qui est le préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi.
Voilà, donc messe qui débutera à 10h. Nous recevons ce matin le père Régis Marie de la Tessonnière, qui est donc chapelain du sanctuaire de Lourdes et auteur d'un ouvrage intitulé La lumière de Lourdes, dans le monde entier, aux éditions Le Livre Ouvert. Alors, vous nous avez présenté, presque pour les nuls, l'Immaculée Conception, ce dogme, le sens qu'il a, la manière dont on peut le comprendre et la place de la Vierge Marie dans l'histoire du salut pour les chrétiens. Peut-être dans toute cette partie, on peut essayer, fort de votre expérience, longue expérience à Lourdes, d'essayer de voir un peu quels sont les fruits de ce rayonnement secret, évidemment du Christ, mais aussi de la présence peut-être mystérieuse de la Vierge Marie à Lourdes. On a l'habitude de dire de Lourdes, peut-être que tous nos auditeurs sont allés à Lourdes, mais j'en doute, puisqu'on aimait quand même dans toute la région Midi-Pyrénées, en tout cas ils connaissent bien, que c'est la capitale spirituelle de la France, et pas seulement de Midi-Pyrénées. Qu'est-ce que vous diriez, vous, fort de vos longues années à Lourdes ?
Alors, c'est un centre mondial de pèlerinage, capitale spirituelle de la France, je ne suis pas sûr, mais c'est un endroit emblématique, effectivement, pour les Français. Dès qu'il y a un événement important, comme par exemple la mort du pape, tout de suite, on va interroger des personnes devant la cathédrale Notre-Dame de Paris et devant la grotte de Lourdes. Voilà ça. Mais je ne pense pas pourtant que ce soit une capitale pour la France.
Ou quand il y a eu les attentats, pardon, je vous arrête.
Quand il y a des attentats, enfin des événements importants. Voilà. Qu'en pensent les catholiques, qu'en pense l'Église, et on va donc se mettre devant Notre-Dame de Paris, devant la grotte de Lourdes. Je dis ça parce que Fatima, par exemple, au Portugal, est devenue la capitale spirituelle du Portugal. Voilà. Ceci dit, en France, beaucoup de gens sont attachés d'une façon ou d'une autre, à un niveau ou à un autre, au sanctuaire de Lourdes. Mais à travers ce sanctuaire de Lourdes, ils découvrent le sanctuaire le plus proche de chez eux, dans lequel ils vont se rendre peut-être une fois par an. Voilà. La caractéristique de Lourdes, c'est l'universalité, c'est-à-dire ce rayonnement qui, depuis le début, est mondial et qui ne cesse de... Voilà, c'est étonnant de voir comment la grâce se développe et atteint des générations et générations à travers le monde.
Alors peut-être on en parlera un peu plus loin, mais c'est vrai qu'en tout cas ce qu'il y a de frappant avec Lourdes, c'est que c'est pas la France a plusieurs lieux d'apparition, peut-être que vous pouvez les reciter, en tout cas les lieux d'apparition reconnus, et c'est Lourdes qui détrône tout le monde.
J'ai coutume de dire qu'effectivement, il y a différents lieux d'apparition dans l'histoire de l'Église, dans le monde. Certains de ces lieux d'apparition sont des lieux reconnus par l'Église. Et parmi les lieux d'apparition reconnus par l'Église, effectivement, Lourdes occupe une place à part. Voilà. En raison de sa vocation d'universalité. Alors, on peut l'expliquer en quelques mots, c'est-à-dire que le Fils de Dieu s'est fait homme il y a aujourd'hui un peu plus de 2000 ans. Mais avant lui, il y a toute une histoire, c'est-à-dire que depuis Adam et Ève, depuis Abraham, il y a eu un certain nombre de prophètes qui ont annoncé la venue du Christ, la venue du Sauveur. Et depuis que le Sauveur est venu, eh bien, Marie continue non pas à annoncer, mais d'une certaine façon à rappeler que Jésus est le Sauveur du monde, qu'il est là, qu'il suffit de le rencontrer, de l'accueillir, de lui donner un peu de place dans son cœur, pour arriver par lui, avec lui, en lui, jusqu'à Dieu.
Mais elle ne fait pas qu'à Lourdes. Ça,
c'est... Non, elle ne fait pas à Lourdes. Mais Lourdes est un rappel, on peut dire, pour tout le monde, c'est-à-dire pour la terre entière et pour une période certainement très longue. Voilà.
Je disais qu'il y a d'autres lieux d'apparition, est-ce que vous pouvez en citer quelques-uns, peut-être, pour nous dire qui seraient pas
familiers? Pour la France, je dirais la Salette, par exemple.
Donc dans les Alpes.
Voilà, où une apparition qui est un petit peu antérieure, celle de la rue du Bac, de la Vierge qui est apparue à Catherine Labouré, avec ce message au Marie conçu sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Voilà. Ça fait partie des... principaux lieux connus d'apparition. Voilà.
Alors, qui dit Lourdes dit grotte de Lourdes. On imagine que la messe tout à l'heure va être célébrée à la grotte en ce 8 décembre, c'est
alors,
probable.
Bien sûr. Et un certain nombre de messes sont célébrées tout au cours de la matinée à la grotte. Ce qui caractérise le sanctuaire de Lourdes, c'est cette grâce qui est universelle. Alors, qu'est-ce que la grâce ? La grâce est une force que Dieu nous donne pour faire ce que nous ne pouvons pas faire par nous-mêmes. Voilà. Et ce qui est très intéressant à Lourdes, c'est que là où Marie a dit, où la Vierge Immaculée a dit à la petite Bernadette, « Je suis l'Immaculée Conception », eh bien, une grâce est donnée à tous pour expérimenter un peu ce que ça veut dire. Je m'explique. À Lourdes, beaucoup de croyants, beaucoup de chrétiens, de catholiques constatent qu'il est facile de prier, que la prière, elle est comme donnée. Elle existe quand nous arrivons à la grotte, elle existe et on se fond dans cette communauté, dans ce peuple en prière. Voilà. Et on fait une expérience très, très forte. De même, la relation aux autres est donnée d'une autre manière et très, très visible à travers cette relation qu'ont les personnes malades ou handicapées et leurs accompagnateurs et les personnes qui les accueillent. Et on voit au fond que on fait cette expérience déconcertante que la relation à l'autre, y compris si l'autre est malade ou handicapé, est comme facile. Voilà, ça c'est du niveau de la grâce. Et ainsi, ça nous permet de comprendre que l'Immaculée Conception, Marie étant sans péché, elle peut accueillir le don de Dieu sans restriction. Et nous-mêmes, quand nous sommes à Lourdes, quand nous bénéficions de cette grâce, eh bien, il nous est donné d'être en quelque sorte dans le sillage de la Sainte Vierge, dans le sillage de la Vierge Marie, et d'expérimenter la relation à l'autre, l'autre que je ne connais pas, que je vais rencontrer pour la première fois, ou l'autre avec lequel je viens et qui est peut-être mon conjoint ou des personnes que je connais depuis longtemps, arriver à une relation tout autre, voilà, et également avec le bon Dieu.
Alors, j'allais vous poser la question donc sur la grotte. Alors, certainement qu'on a dû vous poser mille et une fois la question, mais tout le monde n'est pas allé devant la grotte de Lourdes. Est-ce que vous pouvez peut-être, je sais pas, nous décrire le lieu et puis nous dire l'importance qu'il y a à se tenir comme ça sur le lieu de l'apparition et à se tenir particulièrement devant cette grotte?
Alors cette grotte, elle est assez étonnante, puisque quand Bernadette s'y est rendue pour la première fois le 11 février 1858, c'est un endroit qu'elle ne connaissait pas, qui était un peu dans un bas-fond, en contrebas de la ville, un lieu donc à l'écart, mais surtout un lieu sale, un lieu vraiment inintéressant. Et voici que la Vierge a choisi cet endroit-là pour apparaître à la petite Bernadette. Et j'ai coutume de dire qu'il n'y a pas un miracle à Lourdes, il y en a deux. Le premier miracle, c'est le ciel qui s'ouvre et la Mère de Dieu, la Vierge Immaculée, qui descend sur notre terre, en cet endroit de Lourdes qui s'appelle la grotte de Massabielle. Et l'autre miracle, c'est le cœur de Bernadette qui s'ouvre tout grand pour l'accueillir. Et en raison de l'accueil que Bernadette a réservé à la Vierge Immaculée, eh bien, cet endroit est devenu l'un des endroits les plus beaux, les plus purs, les plus propres du monde. Vous voyez ? Et ceci nous permet de comprendre que cette transformation qu'a connue la grotte, eh bien, avant même que la grotte ne soit transformée, Bernadette elle-même, dans son cœur, s'est laissée transformer par la présence de la Vierge Immaculée.
Mais à quoi ça ressemble, juste, peut-être ?
Alors, le terme de grotte est peut-être pas le plus approprié. Pourquoi ? Parce que quand on dit grotte, on pense à des cavités, on pense qu'il faut des gouffres, il faut descendre sous la terre. Là, non, c'est, le terme technique, c'est abri sous roche. Voilà, qui est au bord, à proximité du gave de Pau, c'est-à-dire de la rivière. Et c'est une grotte dans la mesure où on peut y entrer, on peut s'y tenir debout à plusieurs dizaines de personnes, et c'est un lieu où qui est le cœur du pèlerinage. Habituellement, on se tient face à la grotte, devant la grotte. Il y a en hauteur, sur le côté droit, une statue représentant Notre-Dame de Lourdes, telle que Bernadette, qui l'a vue et qui a été la seule à la voir, en a donné la description. Et les pèlerins, les personnes qui viennent là, restent souvent longtemps devant la grotte. Et à un certain moment, eh bien, on va entrer à l'intérieur de la grotte. C'est ce qu'on appelle le passage. Et ce passage a toute une valeur symbolique.
Il y a tout un rituel aussi.
Alors, le rituel, c'est que...
On y passe la main sur la
roche. Voilà, on va de l'extérieur à l'intérieur, on longe le rocher. Ce rocher, bien, on s'y appuie, on le caresse, on le vénère, on l'embrasse. Bon. Et puis à un certain moment, on se trouve au fond de la grotte, c'est-à-dire à l'endroit qui est le plus sombre, et on va ressortir. Et quand on ressort, eh bien, très souvent... On prend conscience qu'on a vécu quelque chose, c'est-à-dire que finalement on a vécu une rencontre. Une rencontre avec qui ? Avec la Vierge Immaculée qui est là, et à travers elle, peut-être avec son fils Jésus-Christ.
Alors est-ce que tous les pèlerins rencontrent le Christ ou la Vierge Marie en passant dans la grotte ?
J'ose dire...
Il n'y a pas eu d'enquête systématique sur le sujet.
C'est des questions qu'on pose souvent quand même. J'ose dire oui, mais il faut préciser qu'il n'y a pas de rencontre identique. J'ai vu des personnes qui ont été comme foudroyées à l'intérieur de la grotte, qui ont été saisies par cette expérience de la rencontre. Il m'arrive de voir aussi des pèlerins qui, sortant quelques dizaines de mètres plus tard, vont s'arrêter. Si ce sont des couples, eh bien, ils vont se remettre ensemble pour parler. Si ce sont des familles, ils vont se rassembler. Mais aussi, on voit cette prise de conscience plus tard, quand des personnes vont être à la gare ou à l'aéroport, ou plusieurs mois après, vont comprendre, en décodant un petit peu leur existence, que leur vie a changé à partir de ce moment-là. Voilà.
Ça fait combien de temps que vous êtes au sanctuaire de Lourdes ?
Ça fait une vingtaine d'années.
Voilà, donc ça donne quand même quelques crédits, hein, même s'il n'y a pas eu d'enquête systématique à vos propos. Vous avez, entre autres, parmi les multiples responsabilités certainement que vous avez eues dans ce sanctuaire de Lourdes, vous avez donc de 2004 à 2008, si je ne me trompe pas, sillonné le monde pour aller à la rencontre, si je puis dire, ou à la découverte du rayonnement international de Lourdes dans une centaine de pays, vous me disiez en préparant cette émission. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ces multiples voyages? Déjà, peut-être pourquoi vous étiez missionné comme ça pour parcourir le monde à la rencontre des grottes?
Ça voilà. Ne pas que de Alors, la, je que dirais d'abord, pour un prêtre, plus que de parler de responsabilité, je préfère employer le mot service. Voilà, on sert l'Église et on sert l'Église en ce qui me concerne en servant le sanctuaire de Lourdes. L'année 2008 a marqué le 150e anniversaire des apparitions et l'évêque à l'époque, Mgr Jacques Perrier, a désiré connaître un petit peu, faire le point, le bilan en quelque sorte du rayonnement de Lourdes dans le monde. Ce rayonnement qu'on connaissait, sur lequel on a beaucoup de documents, mais pour en, voilà, savoir où on en était. Alors, le rayonnement de Lourdes, c'est très intéressant parce que il y a deux, et c'est parti de deux manières simultanément. La première chose, c'est que ce sont les premiers pèlerins, qui, étant entrés dans une expérience forte, sont rentrés chez eux, non pas simplement avec des paroles, mais pour proposer à ceux qu'ils avaient quittés précédemment, d'entrer dans la même expérience. D'où la construction de répliques de la grotte de Lourdes. Et quand on a construit une réplique de la grotte de Lourdes, c'est pour participer à une procession. Voilà, c'est pour vivre finalement comme à Lourdes. Alors ça, c'est tout à fait extraordinaire, dans la mesure où on a une des clés de Lourdes, c'est l'expérience. Et en même temps...
Alors, est-ce que vous avez juste le souvenir comme ça d'une grotte qui aurait été construite à cette fin parmi les multiples voyages que vous avez fait ?
Alors, à peu près toutes, on en parlera peut-être dans un instant, il y a quand même différentes approches dans la construction des répliques de la grotte. Mais je voulais juste dire encore une chose, la deuxième approche de tout ce rayonnement, elle est due aux missionnaires. Alors les missionnaires, ce sont à l'époque c'était surtout des prêtres, qui annonçait l'évangile d'abord en France, tout simplement, ce qu'on appelait les missions paroissiales, et à la fin d'une mission paroissiale, il y a le célèbre père Marie-Antoine, qu'on a appelé le saint de Toulouse, qui a été l'un des tout premiers, à la fin d'une mission paroissiale, les missionnaires avaient l'habitude d'ériger une croix, souvenir de cette mission. Et très vite, au XIXe siècle, à côté de cette croix, il y a eu une représentation de la Sainte Vierge, une statue de la Vierge Marie. Et dès après les apparitions, eh bien, il y a eu aussi très souvent une grotte de Lourdes. Alors, le but de ces croix et de ces grottes de Lourdes, c'était de se souvenir de la mission, de l'expérience qu'on avait vécue, peut-être de l'engagement qu'on avait pris dans le secret de son cœur, et de venir, en général ces croix de mission et ces grottes étaient à la sortie du village, voilà. Mais les autres missionnaires qui, eux, étaient envoyés dans le monde entier, ont fait exactement la même chose. Et je pense notamment, mais ce ne sont pas les seuls, il y en a bien d'autres, je pense notamment aux pères des missions étrangères de Paris, qui, eux, étaient envoyés très loin, en Océanie, qui ont vécu des moments dramatiques, changement de climat, changement de nourriture, difficulté à parler la langue des personnes auprès desquelles ils étaient envoyés. Et donc, ils venaient de quitter la France, ils avaient tous plus ou moins fait le pèlerinage de Lourdes, et donc ils se mettaient sous la protection de Notre-Dame de Lourdes. Et je me souviens d'un de ces missionnaires, le père d'Arras, disant dans sa prière, « Ô Notre-Dame de Lourdes, si j'arrive à baptiser une seule personne, je ferai ceci. Si j'arrive à faire un peu plus, je ferai cela. Je construirai une chapelle, je construirai une grotte, une chapelle, une cathédrale, voilà. » Et ce même père d'Arras, à la fin de sa vie, était désespéré parce qu'il avait baptisé tellement de personnes qu'il n'avait plus le temps d'annoncer l'évangile. Il n'avait plus le temps de prêcher. Il se considérait devenu comme un gestionnaire. Il en était navré. Voilà. Les deux voies, là, les pèlerins qui transmettent leur expérience et les missionnaires.
Alors, si on devait choisir comme ça l'un ou l'autre sanctuaire, moi j'ai relevé donc dans ce livre, dont je rappelle le titre, La lumière de Lourdes dans le monde entier aux éditions Le Livre Ouvert. Vous parlez d'un sanctuaire c'est une petite grotte à Buenos Aires où Notre-Dame de Lourdes est fêtée 21 fois par an.
Oui.
Vous pouvez nous rappeler ce...
Alors ça, c'est en pleine ville, c'est sur un boulevard assez large. Et c'est une église qui est assez petite et il y a une sorte de cour intérieure. Mais il se trouve que le boulevard étant assez large, non seulement on peut se garer en double file, en triple file, et beaucoup de personnes s'arrêtent puisque dans cette cour intérieure, il y a une petite grotte de Lourdes. Alors, comment fêter 21 fois Notre-Dame de Lourdes? Eh bien, le jour de la fête, bien sûr. Ensuite, pendant la neuvaine, les 9 jours qui précèdent, ça fait déjà 10. Et les 11 autres mois de l'année, il y a ce qu'ils appellent le petit 11, el once chico, qui est le 11 de chaque mois. Voilà. Et dans cette paroisse sanctuaire, quand le 11 du mois se trouve être un dimanche, eh bien, il y a un rite particulier. Au moment après la proclamation de l'évangile, on constitue avec du papier, une petite grotte de Lourdes, et des enfants de la paroisse vont mimer un des moments que Bernadette a vécu devant cette grotte.
Est-ce que vous vient en tête, alors évidemment il y a certainement une multitude, puisque vous avez fait une centaine de pays de rencontres, mais l'un ou l'autre sanctuaire tout à fait improbable et qui peut-être peuvent aider à,
alors, au Chili,
à prendre conscience
par, au Chili, par exemple, j'ai vu grotte de Lourdes qui était sur le parking d'un supermarché. Alors ça peut paraître étonnant, mais effectivement, les gens gardent leur voiture et peuvent aller se recueillir. Mais surtout, les jours de fête, eh bien, ils ne gardent pas leur voiture, c'est le parking du supermarché qui devient la grande esplanade pour la célébration. Il y a différentes finalités qui ressortent dans ces réalisations de grottes de Lourdes. Au Vietnam, par exemple, il y a beaucoup de grottes qui sont un peu cachées, très discrètes. J'étais très frappé aussi en France, en Lorraine. Il y a des grottes qui sont dans des endroits improbables, notamment dans la région de Sarreguemines. La frontière entre la France et l'Allemagne est constituée par un petit ruisseau. Côté français, la colline descend à pic, et là, il y a des grottes. Et si on fait un petit peu attention, il n'y a pas des grottes, il y a une batterie de grottes tous les 2-3 kilomètres tournées pacifiquement vers l'Allemagne. Elles ont été construites donc entre la guerre de 70 et la Première Guerre mondiale. Également en Lorraine, il y a des grottes dans des endroits encore plus improbables. C'est au carrefour principal de chaque village. Donc ce ne sont pas des grottes devant lesquelles on peut se tenir très nombreux, mais ce sont des grottes que tout le monde voit. Ce sont des grottes qui font signe. J'étais frappé aussi au Costa Rica par cette petite grotte. Il y avait, à l'époque où j'y suis allé, le volcan Arenal qui était encore actif et qui avait un jour dans un petit hameau d'une centaine de personnes, la menace était fort grande. Tous les villageois se sont rassemblés dans l'église, ils ont invoqué Notre-Dame de Lourdes et la coulée de lave s'est arrêtée juste devant l'église. Et quelques temps plus tard, avec la lave, ils ont construit une grotte de Lourdes pour remercier la Notre-Dame de Lourdes.
Voilà, histoire que vous citez dans cet ouvrage. On va faire une deuxième pause musicale et puis on vous retrouve tout de suite après pour continuer donc en ce 8 décembre sur l'Immaculée Conception et Lourdes. Je rappelle le titre de votre ouvrage, La lumière de Lourdes dans le monde entier, aux éditions Le Livre Ouvert.
C'était mon ciel, Marie, tu étais si belle, au rocher de ma Saint-Bielle, le coup de la vie éternelle, la grotte, c'était mon ciel, Marie, tu étais si belle, au rocher de ma Saint-Bielle, le coup de la
Ce matin, ce 8 décembre, donc cette émission La Grâce de l'Immaculée avec le père Régis-Marie de la Tessonnière, chapelain du sanctuaire de Lourdes, qui nous fait l'amitié d'être présent dans les studios de Radio Présence et qui est l'auteur d'un petit ouvrage intitulé La lumière de Lourdes dans le monde entier, préfacé par Mgr Nicolas Brouet, évêque de Tarbes et Lourdes. Peut-être pour finir cette émission et essayer de rendre toutes ces grâces décrites plus personnelles pour tout un chacun, on va partir de votre expérience à vous. Vous commencez ce petit ouvrage en parlant de vos premiers souvenirs avec Lourdes. Vous aviez l'habitude d'y aller et en fait vous aviez une relation un peu, non pas hésitante, mais enfin vous aviez quelques appréhensions à aller en ce lieu. Alors ça vous rend très sympathique parce que c'est vrai que c'est quand même un lieu qui reste très impressionnant et en tout cas dans le regard de l'enfant que vous étiez, ça l'était.
Effectivement, mes parents se sont connus à Lourdes en 1939, se sont mariés ensuite en 1946 au lendemain de la guerre, et ils ont toujours eu dans leur l'un et l'autre des catholiques, pratiquants, engagés, issus du scoutisme, et ils sont venus à Lourdes, ils ont fait le pèlerinage de Lourdes finalement toute leur vie, c'est-à-dire à peu près une fois par mois, et puis ensuite un pèlerinage plus complet pendant le temps de l'été. Et j'étais toujours étonné, enfant, de voir la joie que ça leur apportait. Moi-même, j'étais pas très à l'aise de voir toutes ces personnes malades, handicapées. Dans les années 50, c'était beaucoup plus impressionnant qu'aujourd'hui. Et je me souviens d'un souvenir très concret. Donc au début des années 50, j'étais aussi effrayé par toutes ces béquilles qui pendaient à l'intérieur de la grotte. voyez, ça ne faisait pas partie de mon univers habituel. Par contre, à un certain moment, je me suis retourné et de l'autre côté du gave de Pau, de l'autre côté de la rivière, j'ai vu des vaches. Alors là, j'étais pleinement rassuré. Et aussi, j'avais un souvenir un petit peu difficile avec l'eau de la grotte. Je la trouvais très très froide, voilà. Et tout simplement, comme je buvais peut-être un peu trop vite, ça me donnait mal au ventre. Et tout ça, ça me mettait un petit peu mal à l'aise. Mais à travers mes parents, j'ai compris qu'il fallait être patient et qu'eux-mêmes avaient découvert quelque chose qui n'était pas encore accessible. C'est comme ça que j'ai continué et persévéré.
Alors vous racontez, parmi les anecdotes que vous rapportez, que vous êtes arrivé à Lourdes le 29 mars 1996 et vous avez été accueilli par Madame Soubirous.
Oui, Madame Soubirous, c'est ça. Eh bien, Bernadette Soubirous a eu plusieurs frères, mais un qui a eu une descendance. Cette descendance perdure toujours aujourd'hui et même de façon très précise. Son frère est devenu veuf, s'est marié une seconde fois, donc il y a deux branches, voilà, en quelque sorte. Et l'une des branches, ce sont des médecins, l'autre branche était plutôt des hôteliers.
Et ils habitent à Lourdes.
Alors ils habitent encore à Lourdes, oui, il y en a plusieurs.
En tout cas, voilà. c'est un clin d'œil.
C'est un
clin d'œil pour vous d'être accueilli par Mme Soubirous.
Tout à fait, tout à fait, voilà.
Je voulais vous interroger sur votre expérience de chaplain, mais le temps avance. Peut-être pour finir, pour les auditeurs qui sont allés, qui nous ont écoutés jusqu'à maintenant, et qui, en ce 8 décembre, voudraient faire une démarche pour qui la Vierge Marie n'est pas forcément quelqu'un. Qu'est-ce que vous leur conseilleriez? Comment on fait? Est-ce qu'on peut aujourd'hui encore rencontrer la Vierge Marie? Si oui, comment on peut s'y prendre et qu'est-ce que ça veut dire?
Heureusement. Je crois qu'il faut avoir, on a beaucoup de personnes ont quelques a priori sur la religion, sur la foi, sur la pratique chrétienne, sur ce que font les catholiques. Mais Dieu est présent au milieu de nous. Nous pouvons le rencontrer à travers son Fils, Jésus-Christ, Fils de Dieu fait homme, et à travers les saints et les saintes, c'est-à-dire ces hommes et ces femmes comme nous, mais qui peut-être, à la différence de nous, se sont laissés habiter par le Christ et se sont laissés transformer. Et en tête, bien sûr, il y a la Vierge Immaculée. Alors, la Vierge Immaculée est une personne. J'aime bien quand, dans certaines cultures, je pense en Afrique, je pense aux Antilles, on parle de Maman Marie. Eh bien, on peut s'adresser à la Vierge Marie comme on s'adresse à une vraie maman, avec vraiment beaucoup de spontanéité. Et si on entre dans cette relation, eh bien cette relation devient une relation vivante. Voilà. Ce que j'essaie de dire, c'est que l'obstacle qu'il y a dans la relation entre le Christ et nous-mêmes, entre la Vierge Immaculée et nous-mêmes, ne vient pas du Christ, ne vient pas de la Vierge Marie, mais vient de nous-mêmes. Alors à nous, et Lourdes est effectivement un lieu de grâce, mais il n'y a pas simplement le lieu, il y a aussi le temps, c'est-à-dire que en ce jour où l'Église universelle célèbre l'Immaculée Conception de la Vierge Marie, eh bien c'est un jour de grâce pour se tourner vers la Vierge Immaculée, pour lui demander de nous donner son Fils, de nous conduire à son Fils, de nous désigner son Fils, de nous faire le rencontrer et d'entrer dans cette relation très simple qui est véritablement une relation de personne à personne.
Mais vous avez probablement des pèlerins qui viennent à Lourdes et qui ne sont pas spécialement croyants et qui vous posent peut-être cette question. Est-ce qu'il faut commencer par des démarches toutes simples, je ne sais pas, allumer une bougie, lui parler?
Alors quand
parce
on...
que aimer et connaître quelqu'un qu'on ne voit pas, c'est quand même
c'est
pas...
ça. Alors je dirais que effectivement, quand on est dans une ville ou quand on est dans la campagne, comment commencer, c'est peut-être plus difficile à dire. Mais à Lourdes, la question ne se pose pas, puisque chacun est saisi en quelque sorte par la grâce et entre dans une expérience. Alors cette expérience, pour l'un va être frappé par le recueillement des personnes qui sont devant la grotte, des pèlerins. L'autre va être frappé par le fait de rencontrer des personnes malades ou handicapées, mais qui ont l'air heureuses et qui le sont. D'autres va être frappé par tous ces bénévoles qui, gentiment, gratuitement, bénévolement, se donnent de leur temps, de leur personne pour accueillir, accompagner les autres. Ainsi de suite. Beaucoup de gens sont frappés aussi par cet aspect international, c'est-à-dire de voir des gens de cultures extrêmement différentes. Je pense à des Chinois, à des Coréens, à des Japonais, mais aussi à des personnes d'Amérique latine ou d'Amérique du Nord ou d'Afrique. et de voir que finalement chacun est aussi à l'aise devant la grotte, chacun est aussi à l'aise dans la prière, chacun est aussi à l'aise dans le rapport à l'autre, quelle que soit sa culture. Ça permet de comprendre l'universalité de l'évangile.
Pour finir, est-ce que vous auriez, parmi les multiples grâces dont vous avez été témoin, d'ailleurs il y a un chapitre qui s'intitule même « Les miracles de Lourdes », est-ce que vous auriez l'une ou l'autre histoire qui montrerait que tout ce qu'on vient de dire peut prendre chair et que des gens aujourd'hui encore à Lourdes découvrent, même si on ne la voit pas, la Vierge Marie comme leur mère au ciel?
Voilà, je dirais volontiers que chacun reçoit quelque chose à Lourdes. Alors, dans certains cas, ce sont des miracles du corps qui sont reconnus par l'Église. Il y en a 68 ou 69. Dans d'autres cas, ce sont des guérisons qui n'ont pas été déclarées, donc pour cette raison-là, ne peuvent pas être reconnues. Mais dans une multitude de cas, ce sont des petites choses qui nous touchent et qui me permettent de comprendre que ça, je n'en suis pas capable. Ça, ce qui m'est arrivé, c'est vraiment l'intervention de quelqu'un d'autre qui vient du ciel. Et si je constate au niveau, je vais vous donner un exemple dans une seconde, au niveau de mon corps, de mon humanité, ce qui s'est passé, un exemple, quelqu'un, m'a-t-on dit, avait des sifflements dans les oreilles, c'est quelque chose d'extrêmement désagréable et difficile à guérir. Et si ça s'arrête subitement, eh bien on comprend qu'il s'est passé quelque chose. Et à partir de là, on peut cheminer un petit peu et comprendre que ce qui s'est passé dans nos oreilles s'est passé à l'intérieur de notre cœur encore plus. Car le message de Lourdes, ce n'est pas simplement d'être heureux sur terre, c'est de nous préparer à la vie éternelle pour être au terme inclus dans l'éternel échange d'amour du Père et du Fils dans la communion de l'Esprit-Saint avec la Vierge Immaculée et comme elle.
Merci beaucoup Père Régis-Marie de la Tessonnière. Je rappelle le titre de votre ouvrage, La lumière de Lourdes dans le monde entier, aux éditions Le Livre Ouvert. Merci.
Merci à vous.
Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.
Dans un instant, je vous propose donc de retrouver cette messe solennelle en direct du sanctuaire de Lourdes pour ce 8 décembre, jour de l'Immaculée Conception, messe qui sera présidée par le cardinal Müller, préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi.